Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, la procédure de destitution est lancée contre Donald Trump. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, accuse Donald Trump d'avoir tout simplement violé la Constitution. Le chef de la Maison-Blanche a demandé au président ukrainien d'enquêter sur le fils de son principal rival, Joe Biden, ancien vice-président, aujourd'hui en lice dans la primaire démocrate. Donald Trump a longtemps nié, mais il y a quelques minutes, tout juste, l'intégralité de la conversation a été publiée. Une nouvelle affaire et un nouveau scandale politique dénoncé par Donald Trump, imperturbable, inébranlable, qui évoque comme toujours la chasse aux sorcières, un harcèlement présidentiel et nie toute pression exercée sur l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui a poussé les démocrates à sortir l'arme nucléaire de l'impeachment? Qu'en disent les Américains? Cette procédure peut-elle durablement affaiblir Donald Trump, gêner sa campagne? Que lui reproche-t-on réellement? Trump, du scandale à la destitution, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nicole Bacharan. Vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Je cite ce soir votre nouvel ouvrage qui vient de paraître, Le Monde selon Trump, publié aux éditions Talendier. Thomas Negaro, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes également chroniqueur sur France Info. Je cite ce soir votre livre Little Rock 1957 qui vient de sortir en poche. Douglas Herbert, vous êtes journaliste américain, chroniqueur et éditorialiste en charge de la politique internationale à France 24. Enfin, Laure Mandeville, vous êtes grand reporter au Figaro. Je rappelle la page hebdomadaire dont vous êtes en charge, qui s'intitule « Débat d'idées autour du monde ». Et enfin, votre ouvrage « Qui est vraiment Donald Trump ?» publié aux éditions des Équateurs, le Figaro. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Cette journée est absolument incroyable. On commence avec l'impeachment et on la poursuit avec une conversation, je le disais à l'instant, retranscrite intégralement, conversation du 25 juillet entre Donald Trump et le président nouvellement élu ukrainien. Et c'est le point de départ d'un scandale. Et vous allez nous expliquer, Nicole Bacharan, parce que pour les gens qui nous rejoignent ce soir, il y a eu pas mal d'étapes et qu'il va falloir, oui, sur lesquelles il va falloir revenir.
Et il y a eu pas mal d'étapes. En fait, je crois que la première étape, c'est que, par une fuite, la presse a eu vent du fait qu'un lanceur d'alerte au sein des services secrets avait fait un rapport, parce qu'il y a maintenant une procédure quand il remarque des choses qui leur semblent un peu troubles, avait fait un rapport pour indiquer que le président des États-Unis aurait, restons encore au conditionnel, fait pression sur le président ukrainien nouvellement élu pour que l'Ukraine donc entame une enquête criminelle, une enquête sur la corruption éventuelle de Joe Biden, qui est pour l'instant en tête des sondages côté démocrate. Donc en gros, Donald Trump aurait demandé à un pays étranger de se mêler de l'élection pour démolir un de ses concurrents. Pour ça, on a deux éléments. Ce rapport du lanceur d'alerte que le Congrès réclame à corps et à cri et qu'il n'a pas encore obtenu, mais qu'il obtiendra. Et puis ce coup de téléphone dont la Maison-Blanche, aujourd'hui, acculée dos au mur, publie la transcription. Alors, ce n'est pas à partir d'un enregistrement, ce sont les notes prises par des personnes qui étaient dans le bureau ovale à ce moment-là. Et on voit que Donald Trump demande très clairement une enquête sur Joe Biden, son rival démocrate.
Vous l'avez lu in extenso. Alors, ouais, c'est marrant parce qu'on voit vraiment, on l'a vu à l'instant, là, hein, c'est un document classifié, ouais, au fond, auquel on a accès. Donc, on a l'intégralité de la conversation entre deux présidents. Vous l'avez lu
entre un président nouvellement élu, Zelensky, et Donald Trump, qui le félicite. Ça commence un peu habituellement, j'imagine, entre deux présidents. On se félicite, bravo, monsieur le président, pour votre grande victoire. Zelensky, qui connaît un peu la psychologie de Trump, le flatte. Vous avez été un modèle pour nous tous, etc. Ensuite, dans un second temps, assez vite, on commence. La stratégie de Trump se met en place. Sa stratégie, c'est quoi? C'est d'arriver au but. Et le but, c'est effectivement, faites-moi cette faveur, c'est les mots qu'il emploie, hein. Approfondissez, lancez une enquête, pas vraiment sur Joe Biden, mais plutôt sur le fils de Joe Biden, et sur le lien, effectivement, qu'il y a eu entre Joe Biden, vice-président à l'époque, et son fils qui travaillait dans une entreprise gazière du pays. Entre-temps, donc, pour préparer un peu le terrain, il dit du mal de tous les Occidentaux, et en particulier des Allemands. Merkel en prend pour son grade, Macron en prend pour son grade, qui disent qu'ils vous aident sur la Crimée, mais qui ne font rien. Nous, on va vous aider. Et c'est là que se met en place une espèce de rhétorique. On va beaucoup vous aider. Il y a une petite faveur à nous demander. Alors, il ne dit pas, bien sûr, ça va être le jeu, hein. Ouais. Il ne dit pas, Si vous ne nous aidez pas, nous ne dégèlerons pas les aides que nous avons gelées depuis quelque temps, des aides militaires. N'oublions pas que l'Ukraine est quand même voisine de la Russie, avec la question de la Crimée qui est évidemment fondamentale, avec une militarisation de la région. Et donc ensuite, toute la fin, très longue, qui prend au moins les trois quarts de la discussion, voire davantage, c'est consacré à la question très spécifique de Biden, où le président évoque son avocat, Giuliani, qui s'interroge beaucoup sur la question, depuis très longtemps, sur la question d'une possible corruption ou d'un possible pacte entre Biden, son fils, pour faire limoger le procureur qui enquêtait au départ sur l'entreprise dans laquelle son fils travaillait.
Si vous êtes perdu, c'est pas grave. Je vous taquine. En réalité, vous l'avez très bien expliqué.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que cette histoire, elle est bien sûr difficile dans les détails, mais elle est mille fois plus simple à raconter que Mueller. C'est aussi pour ça que les démocrates s'en emparent, parce qu'elle est beaucoup plus facile à vendre à l'opinion publique. On a les mêmes ingrédients. Hein. Un président américain, ou en tout cas un candidat ou un président qui se sert d'un autre président pour nuire à un adversaire politique.
Ça nous rappelle quelque chose.
Voilà, on pensait Poutine-Clinton et on se retrouve avec Zelensky-Biden. Mais le récit est assez simple. Et puis en plus, on a cette transcription qui dit assez clairement les choses, même si la question de la légalité, on va se la poser tout à l'heure, elle n'est pas absolument évidente quand on lit la transcription.
Pardon de poser la question aussi basique. Pourquoi c'est grave ? Pourquoi c'est grave cette conversation ? Pourquoi c'est grave qu'un président demande un coup de main à un autre chef d'État pour discréditer un de ses adversaires ? Pourquoi ça choque ? Pourquoi ça fait scandale aux États-Unis et ça pourrait conduire à une procédure ? Enfin, ça conduit au début d'une procédure de destitution.
On l'avait entendu clairement de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre de représentantes, hier soir, quand elle avait dit qu'il s'agit d'une violation, il a violé la loi fédérale, la Constitution des États-Unis. Et en fait, Trump, il veut nier en bloc qu'il y a quoi que ce soit à voir là-dedans. Il dit circuler, rien à voir. Mais en fait, même sans le soi-disant quid pro quo, c'est-à-dire même sans dire explicitement, bon, faire le chantage, on va retenir votre argent, votre aide financière, si vous n'enquêtez pas sur mon rival politique. Même sans cela, on a noir sur blanc dans ce document, quand même, un président des États-Unis qui propose de fournir les services, les prestations de son attorney general, le chef du département à la justice, en fait, pour aider un procureur étranger, un procureur ukrainien à enquêter sur le rival politique du président américain. C'est en fait du jamais vu. Il faut prendre un peu de recul pour se rappeler qu'à n'importe quelle époque, autre époque avant Donald Trump. Il y a tellement de scandales, de sensations.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Qu'on a tendance maintenant à être un peu dans la complaisance, de dire, ah oui, rien à voir, comme Trump dit, rien à voir circuler. Ça, c'est quand même hallucinant, même s'il n'y a rien d'autre.
C'est pour ça que je vous posais la question à plat. Pourquoi c'est grave ? Parce que, pardon, mais on en a tellement vu. Il y a tellement eu des histoires, les coups de boutoir de Trump, ses expressions outrancières, des affaires. On a parlé de l'affaire russe, des vidéos, des sextapes. On a tout eu. Là, on a franchi une étape, selon vous, Laure Mandeville ?
Peut-être. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, la première chose, c'est qu'on est face à un homme. Je me souviens, c'était un des chapitres d'ailleurs de mon bouquin, un homme sans limite. C'est-à-dire que depuis le début, la question qu'on se pose avec Trump, c'est est-ce que cet homme se comporte en politique comme il s'est comporté pendant, je ne sais pas combien, 40 ans comme homme d'affaires, ou en réalité, il s'est comporté comme une sorte de Machiavel des affaires, où tous les moyens étaient bons pour arriver à ses fins, que ça pouvait être extorsion, intimidation de ses adversaires, utilisation des services de la mafia, d'avocats véreux qui l'aidaient à défendre son point de vue devant les tribunaux, etc., etc. Donc en fait, ça c'est Trump. Et donc au fond, je crois que les gens qui ont un peu travaillé sur le personnage, ça qui n'est pas surprenant.
Vous n'êtes pas surprise.
Je ne suis pas surprise que cet homme qui n'a pas de limite dans l'exercice de sa fonction se comporte comme il s'est toujours comporté. La question qui se pose, c'est pour l'instant, moi, je reste très prudente parce qu'en fait, cette histoire nous tombe sur la figure et nous n'en avons pas encore tous les tenants et aboutissants. On a bien vu que dans l'histoire du premier impeachment de l'affaire Robert Mueller, il n'y a pas eu les éléments légaux pour amener à une procédure, parce qu'elle a été abandonnée. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est le quid pro quo qui permettrait de trancher, ou est-ce que déjà ils peuvent utiliser ça pour lancer cette procédure? De toute façon, la procédure d'impeachment, il faut le savoir, est une procédure politique.
On va en parler, donc, de la procédure d'impeachment.
Elle aura lieu, de toute façon.
On va en parler, je vous assure, et on va rappeler à quel point c'est très compliqué de faire aboutir une procédure d'impeachment. Mais le fait qu'un chef d'État demande à un autre chef d'État d'enquêter sur un rival, on se dit, est-ce qu'on est naïf? Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Pourquoi est-ce que la Maison-Blanche, d'un coup, prend le risque de diffuser cette conversation intégrale?
Parce qu'ils n'ont pas le choix. Le Congrès a fait ce qu'on appelle le subpoena. Je ne sais pas quel est le mot en français, mais enfin, ils ont exigé que le document leur soit transmis, et ils ont les moyens légaux de l'obtenir. Et je pense que la Maison-Blanche s'est trouvée dans la situation de dire, plus on le cachera, plus on donnera le sentiment qu'on cache quelque chose d'énorme, on le publie en disant, comme le disait très bien Douglas à l'instant, c'est pas grave, c'est une conversation
anodine,
tout à fait normale entre chefs d'État.
C'est les mots qui ont été utilisés par Donald Trump, qui a réagi, il dit, c'est une conversation anodine.
Mais là, c'est aussi, alors il y a bien sûr la dimension légale de la demande du Congrès, mais il y a aussi la psychologie du personnage. C'est qu'on Trump, c'est quand même le type, quand on lui met la photo de son inauguration et de celle d'Obama, il dit, il y a plus de monde. Et donc, il y a quelque chose de la pensée magique, de la vérité, de ce que je vois, et c'est une opinion, finalement, c'est un peu la post-vérité dont on a beaucoup parlé. Là, on a une expression, il a quand même dit, avant la mise en ligne de la lettre, en disant, quand les démocrates verront ça, ils s'excuseront. Au point que je me suis demandé, moi, si on avait je me suis demandé si c'était pas un fake, le document qu'on avait, qu'on aurait le bon ce soir. C'est-à-dire qu'on a quand même en face de nous, effectivement, et Laure voit bien la psychologie du personnage aussi, quelqu'un, non seulement qui n'a pas de limite, mais qui considère que ce qu'il voit, c'est ce que les autres verront. C'est un peu perturbant, et c'est une certaine manière de se défendre. C'est assez habile, parce que du coup, nous, on a à se demander...
Si c'est grave. Alors, on va poursuivre, si vous le voulez bien, cette conversation. On va refaire un point sur le contenu de cette affaire. En tout cas, c'est une conversation du 29 juillet entre les présidents américains et ukrainiens qui est à l'origine du scandale. Trump est accusé d'avoir voulu se servir, d'une certaine manière, de Kiev pour écarter, on va le dire comme ça, son rival démocrate. Et cet après-midi, l'intégralité de la discussion confirme cette faveur, c'est le mot qui est utilisé, demandée par le président américain. Une affaire de trop qui a conduit les démocrates à lancer une procédure de destitution. Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
Les démocrates veulent la tête de Trump. Hier, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, prend un bain de foule tout sourire à quelques minutes d'une annonce fracassante et solennelle contre Donald Trump.
Les actions de la présidence Trump ont démontré de façon déshonorante la trahison présidentielle de son serment, la trahison de notre sécurité nationale et la trahison de l'intégrité de nos élections. Donc aujourd'hui, j'annonce que la Chambre des représentants lance une enquête officielle de destitution.
Donald Trump, lui, se défend et se place en victime de harcèlement politique.
Vous voyez, la chasse aux sorcières ne fait que continuer. C'est la pire chasse aux sorcières dans l'histoire politique. Ils sont en train de perdre les élections et ils pensent que c'est ce qu'ils doivent faire. C'est du jamais vu pendant une élection. Tout le monde dit que c'est positif pour moi, pour l'élection.
Donald Trump reste sûr de lui, sûr aussi de gagner les futures élections. Et pourtant, cette enquête est lancée parce qu'il est accusé d'avoir ciblé l'un de ses concurrents au poste de président, Joe Biden. Au cœur de l'affaire, un appel confidentiel passé le 23 juillet dernier entre Trump et le président ukrainien Zelensky. Le président américain aurait demandé à son homologue d'enquêter sur la famille Biden. Le fils de Joe, Hunter, a travaillé pour une société gazière ukrainienne alors que son père était vice-président. Un agent des renseignements lance l'alerte. Michael Atkinson, inspecteur général du renseignement, s'inquiète de cet abus de pouvoir. Il est auditionné à huis clos par la Chambre des représentants, mais il garde le silence à la demande de ses supérieurs. Un scandale pour Joe Biden en pleine campagne pour la primaire démocrate.
Je sais que Trump mérite de faire l'objet d'une enquête. Il viole chaque règle élémentaire d'un président. Vous devriez lui poser la question, pourquoi il téléphone à un président étranger? Essaye d'intimider un président étranger. Trump fait ça parce qu'il sait que je vais le battre à plate couture. Et il utilise son abus de pouvoir et chaque élément de sa présidence pour essayer de me salir.
Au départ, Donald Trump dément cette conversation téléphonique. Mais la polémique monte et finalement coup de théâtre. Il lance aujourd'hui une opération transparence. La Maison-Blanche vient de déclassifier la conversation secrète. Le président américain a bien demandé une enquête.
On parle beaucoup du fils de Joe Biden. Ce serait formidable si vous pouviez faire quelque chose avec le procureur général.
Donald Trump aurait-il aussi fait du chantage au président ukrainien ? En tout cas, quelques jours avant cette conversation par téléphone, le président américain décide de geler une aide militaire à l'Ukraine de 400 millions de dollars. Là encore, Trump dément, son homologue Zelensky aussi.
Personne ne peut faire pression sur moi parce que je suis président d'un État indépendant. La seule personne qui peut faire pression sur moi, c'est mon fils de 6 ans.
Hasard du calendrier, les deux présidents se rencontrent ce soir à New York, alors qu'une enquête contre Donald Trump semble de plus en plus probable. C'est la troisième fois qu'une procédure de destitution est lancée dans l'histoire américaine. Mais cela n'a jamais fonctionné. Aucun président n'a été destitué.
Alors, ils fanfaronnent Donald Trump sur la procédure de destitution et on va en parler parce qu'effectivement, c'est compliqué de la faire aboutir. Cette question, pourquoi cette conversation téléphonique avec le président ukrainien est-elle plus grave que les précédentes affaires ? Nicole Bacharan.
D'abord parce que c'est quand même une sorte de preuve. Ce n'est pas des « on dit ». C'est « on entend », même avec peut-être des inexactitudes de quelques mots, mais la voix d'un président et la voix de l'autre. Et la question qui se pose, c'est celle, comme on le disait il y a un instant, des institutions américaines, de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas. Au regard de la Constitution américaine, si le président fait un arrangement en disant « vous m'aidez dans ma campagne électorale et moi, je vous envoie de l'argent ou des armes », c'est une trahison de la Constitution, c'est un abus et une corruption du pouvoir présidentiel.
Ça aurait été la même chose avec l'affaire russe si ça avait été démontré ou pas ?
Oui, bien sûr, tout d'accord. à fait. Ce qui n'a pas été démontré dans l'affaire russe, et on peut comprendre pourquoi, c'est que Donald Trump lui-même a eu des échanges avec des agents russes pour dire « voilà, vous m'aidez, vous faites quelque chose pour moi ». Et à mon avis, puisque les Russes ont réellement fait cela, c'est parce qu'ils savent que Donald Trump parle beaucoup trop et ils ne voulaient même pas le mettre dans la boucle. Mais à plusieurs reprises, Donald Trump, vis-à-vis des Russes, a agi comme quelqu'un qui trahit son pays. Il y a eu ce fameux meeting pendant la campagne électorale, donc il n'était pas président, où il disait « la Russie, si vous écoutez, retrouvez les 30 000 mails de Hillary Clinton ». J'ai envie de dire, ça ne se fait pas, ni politiquement, ni légalement, d'appeler un pays qui est considéré aux États-Unis comme une puissance ennemie en leur demandant de mettre ses espions au service d'un candidat. Il n'était pas président. Il y a eu, quand il était président, cette conférence de presse hallucinante où il était aux côtés de Vladimir Poutine à Helsinki et où toutes les agences de renseignement américaines avaient conclu que la Russie, le Kremlin, avait agi en faveur de l'élection de Donald Trump et où, devant les caméras, devant la presse, à côté de Vladimir Poutine, il disait « Vladimir Poutine m'a dit qu'il n'avait pas fait ça et je n'ai aucune raison de ne pas le croire ». Donc, entente avec une puissance étrangère, c'est illégal quand
c'est
on
illégal.
Est président.
Est-ce qu'il faudrait plus que ce qu'il y a dans ce document-là pour faire avancer la procédure de destitution ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez évoqué le fait que ce soit inconstitutionnel. Oui. Si, il faudrait donc démontrer, j'essaie juste de faire avancer la discussion, il faudrait que la justice américaine démontre qu'il y a eu un échange où le président américain ait retenu des promesses d'aide en armement, c'est ça ? Il faudrait qu'il y ait ça ?
Et ça, c'est pas clair dans le, c'est pas clair dans le texte. C'est-à-dire que, déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Nicole quand elle dit qu'il y a eu entente avec une puissance étrangère sur la question russe. C'est justement ce qui n'a absolument jamais été démontré.
Non, j'ai dit que le fait de faire appel à la Russie pour espionner les emails de Hillary Clinton, ça aurait été,
mais enfin, c'était une déclaration de campagne à la Trump. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y avait une entente entre Trump
ne pas prendre au sérieux.
Alors, non, on va laisser finir Lormandville. Parce que déjà, il y a une affaire, on ne va pas revenir sur l'autre.
Et cette histoire. Et en ce qui concerne cette histoire-là, c'est vrai que je pense que pour l'instant, enfin, d'après ce que je lis, mais j'ai lu vraiment en diagonale, parce qu'on vient juste de l'avoir, le texte, il n'y a pas de précision sur l'existence d'un quid pro quo. C'est-à-dire qu'il y a des soupçons qui ont été évidemment évoqués de manière insistante dans la presse parce que il y a cette fameuse histoire de l'aide que Trump avait suspendue. Il y avait une aide à l'Ukraine, une aide militaire à l'Ukraine qui a été suspendue de manière totalement inattendue par Trump pendant l'été et qui a tout et après a été de manière assez précipitée au mois de septembre remise en route. Et donc évidemment ça pose la question de est-ce que véritablement il y a eu une forme de quid pro quo comme on le disait. Ce qui est intéressant aussi c'est que il y a eu plusieurs contacts entre Giuliani et le conseiller du président Zelensky au cours de l'été suite à cette conversation. Donc, les contacts ont été pris, mais ceci dit, là, il peut dire, je ne m'en cache pas, parce que nous, on s'intéressait à cette affaire, on avait besoin d'informations. Donc, on en revient à l'idée que, est-ce que le fait d'avoir dit, est-ce que vous pourriez quand même vous pencher sur cette affaire Biden, parce que nous, ça nous intéresse, etc., est-ce qu'en soi, ça peut être
alors
utilisé
ça, on va
comme
pas substituer à la justice américaine. On ne va pas se substituer. D'où ça vient Comment la conversation entre deux chefs d'État se retrouve là aujourd'hui sur le plateau de C'est dans l'air. Surtout quand ça concerne le président américain. D'où ça vient? Parce que dans ces cas-là, on se dit qui veut nuire? Est-ce que ça peut être instrumentalisé?
Ça vient du fait que le président des États-Unis a mentionné ouvertement, explicitement, son rival politique pour la présidentielle de 2020 dans une conversation avec un dirigeant d'un pays étranger. D'où ça vient? Joe Biden n'a rien à voir dans une conversation entre un président américain et un dirigeant ukrainien. On va se rappeler que l'affaire de Watergate, bon, on va dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se trame actuellement, se déroule actuellement. Mais en fait, c'est pas si loin que ça, parce qu'en fait, on peut pas oublier que dans Watergate, c'était après des enregistrements. On a divulgué des enregistrements de la Maison Blanche, de Nixon, avec Nixon et ses compères, avec ses conseillers, en fait, dans lesquels il a parlé de ses rivaux politiques. En fait, dans lesquels il a parlé du Parti démocratique et en fait on s'est rendu compte que en fait il complotait quoi, c'était quelque chose qu'il était dans une position comme président des États-Unis, il abusait du pouvoir de la présidence de la Maison Blanche.
C'est ça qui l'a fait tomber.
Et voilà. Éventuellement, c'était non. Et la justice qui l'a bloqué, il a empêché l'investigation, l'enquête. Voilà, il y avait.
Voilà. Mais c'était le point de départ.
Mais c'était un point de départ. Et dans cette fois-ci, les démocrates vont dire le seul fait qu'on voit le nom de Biden dans ce mémorandum, c'est un sujet. Ouais.
Je repose ma question, d'où ça vient? Non pas que vous n'ayez pas répondu, mais qui a accès à une conversation enregistrée entre deux chefs d'État? Là, on se dit, est-ce que les services secrets américains, qui ont des relations très compliquées avec Donald Trump, puisqu'il a quand même dit qu'ils étaient incontrôlables, il a viré le patron du FBI à plusieurs reprises, etc. Enfin, il a des rapports compliqués avec le régalien, comme on dit. Est-ce que ça peut venir de là? Est-ce qu'on peut avoir une idée qu'un état profond, comme on dit, ait envie de faire tomber Trump?
Ça, c'est l'argumentaire de Trump. L'état profond, des adversaires politiques, c'est exactement l'argument de Trump pour dire « je suis victime d'une machination politique ». Le problème, c'est que le directeur du renseignement qui a freiné, et c'est l'une des raisons pour laquelle on peut aller vers la destitution, hein, d'un point de vue légal, si on veut être très précis légalement, il y a éventuellement, mais dans ce texte-là qu'on a, probablement pas grand-chose. En revanche, le fait que le Congrès n'ait pas eu en une semaine les informations de ce fameux lanceur d'alerte retenu par le directeur du renseignement, nommé par Trump, donc l'état profond, on peut en discuter, ça c'est un problème constitutionnel. Et ça, ils vont devoir s'en expliquer. Après, comme on le sait, c'est un lanceur d'alerte, effectivement, qui...
Donc, issu des renseignements, forcément.
Issu des renseignements, bien sûr, ouais. qui fait remonter l'affaire, et voyant que ça ne sort pas, il prévient les médias, le Congrès, de la réalité de cette chose-là. Moi, je pense personnellement que c'est certainement moins grave que l'enquête russe. Si l'enquête russe avait été avérée, il y a une différence... Moins grave et plus grave. Grave parce que Trump n'était pas président, Trump est président aujourd'hui. Il y a une légère différence. Oui. La différence, c'est le mot que vous avez employé, Douglas, c'est abus de pouvoir. Quand vous êtes président des États-Unis, vous avez une marge de manœuvre extraordinairement plus forte que de dire à la télévision « Les Russes, faites ça pour Hillary Clinton ». Vous voyez, on est quand même sur un degré de capacité d'action qui est quand même beaucoup plus important. Et puis une dernière petite chose. On peut ergoter pendant des heures à savoir si c'est constitutionnel ou anticonstitutionnel, c'est difficile à dire, est-ce que c'est l'un ou l'autre. La réalité, c'est qu'en fait, c'est un sujet politique. Dans la Constitution, il n'est jamais précisé explicitement ce qui peut ou pas être de nature à entraîner une destitution, une mise en accusation, l'impeachment ou pas. C'est Benjamin Franklin disait, père fondateur, ce qui peut entraîner une destitution, c'est un président se comporte de manière odieuse. Vous voyez que
c'est difficile à définir,
extrêmement
hein
large et ce n'est pas du tout légalement définissable.
Sur les renseignements,
sur les renseignements, moi je me souviens très bien que quand Donald Trump a été élu, donc en novembre 2016, les choses ont très mal commencé entre lui et toute la communauté de l'espionnage américain. Comme la question du rôle de la Russie était posée et que donc on en parlait quotidiennement, qu'il y avait déjà des enquêtes, Donald Trump disait « Je suis victime d'une chasse aux sorcières. C'est quoi ces services de renseignement? Est-ce qu'on est en Allemagne nazie ?» Ça n'a pas beaucoup plu, je peux vous dire. Et à maintes reprises, il les a insultés, il les a désavoués, il s'est moqué d'eux, il n'a pas tenu compte de leurs conclusions. Il a divulgué auprès d'autres chefs d'État étrangers des éléments qu'il venait des services américains qui étaient secret défense. Je me souviens d'une instance avec Israël. Encore tout récemment, il a commenté, il a divulgué des photos d'une explosion suspecte en Iran alors que les Iraniens ne disaient rien. Donc les services secrets n'ont pas confiance dans le président américain.
Donc c'est pour ça qu'il est enregistré.
C'est une réalité. Ils sont là tout le temps. Oui, je veux dire, ils l'accompagnent partout. Ils l'accompagnent à l'étranger, ils sont à la Maison Blanche. Ils savent au plus près ce que fait Donald Trump. Je ne suis pas étonnée que sans aller chercher un état profond, il y ait quelqu'un ou plus d'un qui ait dit ça va trop loin, il faut prévenir.
Mais juste parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent qu'une conversation entre deux chefs d'État, enfin, moi personnellement je me pose la question, c'est une conversation entre deux chefs d'État. Non. Et en réalité, les services de part et d'autre enregistrent, notent, consignent et parfois diffusent.
Aux États-Unis, ne serait-ce que pour l'histoire, ils sont tenus de garder tous les documents, d'accord, toutes les conversations pour les archives, même sans aucun soupçon d'aucune sorte.
Laure, oui, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce lanceur d'alerte, on voit que ce mouvement, c'est aussi, ça fait partie du jeu politique, c'est un peu cette campagne électorale aussi. C'est-à-dire, si on se place du point de vue de Trump et des Républicains, eux vont vous dire, en réalité, ce qui se passe, ça fait partie d'une bataille. Je crois que Peter Baker, dans le New York Times, a parlé du début d'une bataille épique, nous allons avoir droit à une bataille épique. Et en fait, c'en est un des éléments, puisque Trump va dire mes services, je ne peux pas leur faire confiance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'il a été élu, lui a la conviction, en réalité, qu'on veut qu'on veut proclamer le fait qu'il est illégitime. Et je crois qu'il y a eu, pourquoi il y a eu cette défiance vis-à-vis des services de renseignement, c'est précisément parce qu'il a eu le sentiment depuis le début qu'on lui avait mis cette collusion russe dessus et qu'en réalité, derrière ça, il y avait l'idée qu'il n'était pas légitime et que donc, à tout moment, un certain nombre de gens, ce qu'il appelle état profond, allaient essayer de le destituer. Donc, c'est intéressant parce que, regardez, et c'est quand même intéressant que cette chose soit sortie, regardez quand il y avait eu cette conversation entre Medvedev et Obama. Il y avait eu une conversation entre eux qui avait été sortie, pense-t-on, par les services russes, qui n'a pas, où il avait été justement, il avait dit oui, s'il vous plaît, on verra après. Quand j'aurai les mains libres et que je serai réélu, on fera ce que vous voulez sur le plan de la défense antimissile.
C'était sur l'antimissile.
Et donc. Ça avait quand même pris Obama par défaut, alors que là, c'est de l'intérieur des États-Unis que vient la secousse. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça montre qu'aujourd'hui, les systèmes politiques, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les systèmes politiques ont tellement peur de ces hommes populistes, Boris Johnson et la Cour suprême en Grande-Bretagne, Trump et les services de renseignement aux États-Unis, que en fait les services ont le sentiment que des lignes rouges peuvent être passées, que la démocratie est peut-être en quelle leçon et que la démocratie peut être en danger, donc ils se comportent de manière atypique. C'est très intéressant. On est dans un nouveau cadre.
C'est un peu à l'inverse de ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Il y a aussi un cadre constitutionnel quand même. Et la constitution et la loi, c'est que si un agent de renseignement entend quelque chose qui lui semble bizarre, il doit absolument prévenir ses supérieurs. Sinon, il est condamnable. Donc ce n'est pas uniquement un jeu politique, on en parlait tout à l'heure dans C'est-à-dire. Ce n'est pas Boris Johnson. Ce n'est pas l'état profond contre Boris Johnson. C'est des gens qui
la
vont
loi.
Au-delà, voilà, qui poussent la loi
J'ai
à son
une question
terme,
très vite à vous poser. Est-ce que c'est grave si Donald Trump, en vous posant la question, je devine la réponse, mais est-ce que c'est grave si Donald Trump a dit j'ai pas eu cette conversation, puis finalement a dit si je l'ai eu, j'ai pas fait pression sur les Ukrainiens, j'ai fait pression. Ça c'est pas grave, il y a pas parjure, il y a un mensonge avéré.
Politiquement, c'est pas grave parce qu'il fait ça tous les jours. Là, j'ai dit ça, j'ai pas dit ça. Politiquement, ça ne va pas lui nuire et légalement, il n'était pas sous serment. Donc, il n'y a pas de parjure.
Il a le droit de mentir.
Non, il n'a pas le droit, mais il n'y aura pas
légalement,
de conséquences.
D'accord. Alors, on va parler dans un instant de la procédure d'impeachment. Un mot d'abord sur le camp démocrate. Il sait qu'il ne pourra pas uniquement compter sur les affaires pour tenter de déloger Donald Trump de la Maison-Blanche. La primaire est lancée. Joe Biden, l'ancien vice-président qui faisait la course en tête, vient tout juste, ça s'est passé aujourd'hui aussi, d'être devancé dans un sondage par Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, que Trump surnomme Pocahontas en raison de ses origines. Elle a réussi à créer la surprise. Myriam Zéa, Ilana Azincote.
Elizabeth Warren à la pêche. À New York ce soir-là, face à une foule venue nombreuse, la candidate à la primaire démocrate pour la présidentielle y croit. Elle le sait. Elle menace désormais très sérieusement ses concurrents et pourrait même créer la surprise. Il y a beaucoup en jeu dans cette élection. Et je sais que les gens ont peur. Mais on ne peut pas choisir un candidat dans lequel on ne croit pas juste parce qu'on a trop peur de faire autre chose. C'est notre moment dans l'histoire. Notre moment pour rêver en grand, combattre durement et l'emporter. Et pour l'emporter, cette sénatrice du Massachusetts de 70 ans, située à l'aile gauche des démocrates, mise sur des mesures concrètes. Taxer les riches, lutter contre les lobbies et la corruption, ou encore forcer les présidents à publier leurs feuilles de paix.
Président Warren ! Président
Warren ! La méthode de cette ex-professeure de droit à Harvard séduit de plus en plus de sympathisants.
Elle ne fait pas de généralité. Elle a un vrai plan d'action pour tout ce qu'elle aborde et ses plans sont tous bien pensés. Elle apporte beaucoup grâce à son expérience.
Ce pays a désespérément besoin d'un changement structurel et je pense qu'il est temps, nous avons besoin d'une femme.
Une femme qui n'a cessé de grimper dans les sondages. Elle vient de dépasser pour la première fois le favori, Joe Biden. Derrière eux, Bernie Sanders, classé lui aussi très à gauche. Des rivaux qui s'affrontent lors de ce troisième débat télévisé, organisé le 12 septembre dernier avec sept autres candidats. Ce soir-là, Joe Biden renvoie dos à dos ses deux concurrents. Il les accuse de vouloir étendre davantage l'Obamacare, la réforme de la santé, totem de l'ancien président.
Je pense que nous devons avoir un débat sur l'assurance maladie. Je sais que la sénatrice est d'accord avec Bernie Sanders. Eh bien, moi, je suis d'accord avec Barack Obama. Je pense que l'Obamacare fonctionne.
Nous avons tous une immense dette envers le président Obama. Mais maintenant, la question, c'est comment pouvons-nous améliorer l'Obamacare ? Joe Biden se montre ce soir-là plus incisif que lors des précédents débats. Lui qui reste la cible privilégiée des aspirants à l'investiture. De 32 ans son cadet, un candidat se moque carrément de son âge, qui a plusieurs fois suscité des interrogations lors de la campagne.
Avez-vous oublié ce que vous avez dit il y a 2 minutes ? Est-ce que vous avez déjà oublié ? Je ne peux pas le croire.
Une rivalité entre démocrates qui s'efface lorsqu'il s'agit de parler de leur principal adversaire. Comme ici dans l'Iowa, lors d'un meeting commun à tous les candidats.
Donald Trump doit être vaincu dans ce moment sans précédent de l'histoire américaine.
Nous sommes tous dans la même équipe, concentrés sur la défaite de Donald Trump en 2020.
8 ans de Donald Trump changeraient pour toujours la nature et le caractère de notre pays.
Et sur ce terrain, Elizabeth Warren n'est pas en reste.
Je suis Elizabeth Warren, je sais ce qui a été détruit et je sais comment réparer.
Elizabeth Warren, dont la popularité commence peut-être à agacer Donald Trump. Le président américain la surnomme Pocahontas, une référence moqueuse aux lointaines origines amérindiennes revendiquée par la sénatrice.
J'ai tapé trop tôt sur Pocahontas. Je pensais qu'elle avait disparu, mais elle a réussi à renaître de ses cendres. Et maintenant, il apparaît qu'elle pourrait battre Joe l'endormi. Il n'a aucune foutue idée de ce qu'il fait ou dit.
À 4 mois des primaires démocrates, pour rester en tête, Elizabeth Warren devra convaincre les plus modérés et les États du Midwest, souvent décisifs.
On se disait, vous nous disiez tout à l'heure que cette campagne serait épique. Oui. On vient de voir à quoi elle pourrait ressembler. Hein. Elle est partie. Cette question, impeachment, donc destitution ou pas, cette nouvelle affaire Trump a-t-elle déjà condamné la campagne de Biden ?
Ça ne va pas l'aider, en tout cas, puisque Donald Trump est en danger. Ce n'est pas une situation qu'il déteste. Hein. On voit qu'il est assez galvanisé par cette situation de mise en accusation. Et parce qu'il n'aime pas tellement gouverner, écrire des lois, les négocier. Tout ça, ça ne l'amuse pas beaucoup. Mais la bagarre, les adversaires, leur donner des surnoms ridicules, leur taper dessus, crier qu'il est un martyr, ça, il aime beaucoup. Donc, autant lui risque gros dans cette affaire, autant il va chercher à tirer Joe Biden vers le bas. Et cette histoire, Thomas l'a bien exposée tout à l'heure. Joe Biden était vice-président. Son fils faisait des affaires en Ukraine, dans une société gazière. Il était payé quand même 50 000 dollars par mois. L'administration Obama a recherché s'il n'y avait pas de choses un petit peu louches là-dessus, a conclu que non. Mais ce n'est pas ces conclusions qui vont empêcher Donald Trump de peindre Joe Biden comme quelqu'un qui s'est enrichi sur le dos des Américains et qui est corrompu. Donc moi, je pense que ça va lui nuire.
Ça peut nuire à sa campagne. Sur la procédure d'impeachment, pourquoi d'un coup les démocrates se sont dit « c'est cette affaire-là sur laquelle il faut qu'on lance la procédure d'impeachment ?»
Alors tout à l'heure, j'en ai dit un mot. Je pense d'abord qu'elle est assez simple à raconter.
D'accord.
Qu'on a les mots, contrairement à l'enquête russe qui était quand même très complexe, techniquement très complexe. Hein. Il y avait beaucoup de ramifications, d'accord, beaucoup de non-dits, etc. Je pense qu'il y a ça. Il y a l'accumulation aussi des choses. C'est clairement, il paye un peu pour l'ensemble de son œuvre, là, je pense. Alors, pas tellement, je ne dis pas qu'il le mérite, mais je dis juste que, y compris pour les démocrates qui ne voulaient pas lancer cette opération du genre Nancy Pelosi, qui a freiné des quatre fers pendant des mois et des mois là-dessus, parce qu'elle sent bien que politiquement, c'est très, très, très dangereux, on en parlera peut-être, eh bien, la pression est de plus en plus forte dans son dos, notamment sur la gauche de son dos, parce que c'est de là que viennent les voix les plus fortes pour demander une mise en accusation à la Chambre des représentants, ce qui est aujourd'hui potentiellement beaucoup plus possible qu'avant le mois de novembre, parce qu'il y a quand même une donne politique qui a changé, c'est que depuis novembre, la Chambre des représentants est à majorité démocrate. Or, dans le droit américain, il faut qu'au moins 50% des élus de la Chambre des représentants votent pour la mise en accusation du président, qui ensuite partira au Sénat, qui jouera le rôle de cour de justice. Donc aujourd'hui, il y a 235 démocrates, il faut moins de ça pour la majorité. Ils ont la majorité potentiellement, donc...
Ça, c'est la première étape.
Et donc, ça veut dire qu'il y a un alignement des planètes. Je ne dis pas qu'il y a motif à destitution d'un point de vue moral ou même légal, mais politiquement, aujourd'hui, c'est possible de le faire. Après, les démocrates ne sont pas stupides. Ils savent bien qu'il y a peu de chances que ça aboutisse, pas dans 10 ans, hein, dans les 3-4 mois, si on suit un peu le modèle un peu Clinton, hein, c'était octobre, et puis en février, on avait tout fini. Donc, c'est 4 mois à peu près. Ils savent en revanche que ça leur permet de maintenir une espèce de pression et une image de Trump, d'un Trump qui vend l'Amérique à ses adversaires. Il y a un peu ses ennemis, ou même aux pays étrangers. Donc il y a un peu de ça, à mon avis, qu'ils veulent jouer.
On est d'accord qu'il n'y a aucune chance que cette procédure fasse tomber Donald Trump
quasiment certainement.
Mais pourquoi on en est aussi certain?
Ça va aboutir à rien parce que, pour la simple raison que les Républicains sont à la majorité au Sénat. Au Sénat, en fait, quand on parle d'impeachment, la procédure de destitution, en fait, il s'agit de la première étape, bien sûr. Et en fait, même à partir du moment où le président sera impeached, il y aura déjà deux présidents qui ont été destitués. Ça a déjà été Bill Clinton et Andrew Johnson en 1868. Ils ont été destitué, impeached, impeached dans le sens américain, empêché sans ou... être limogé.
Voilà.
Ils sont restés à la Maison Blanche, c'est-à-dire que ils ont terminé leur mandat, ils ont servi jusqu'à la fin de leur mandat. Et avec Trump, en fait, on risque exactement la même chose parce que jusqu'ici, le président Trump, il a eu une immunité, une impunité congressionnelle dans le sens de 2/3 du Sénat, quasiment tous les républicains avec très peu d'exceptions au Sénat l'ont couvert.
Alors, en fait, donc ça veut dire...
Il le sait. Pour ça, il a beaucoup de confiance, il monte en flèche et il a le vent en poupe.
Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il disait c'est... de toute façon, ça n'a jamais abouti, donc on passe à autre chose. Je précise que le républicain Mitt Romney qualifie de profondément préoccupant l'échange entre Trump et son homologue ukrainien. Alors, ce n'est pas la première fois que Mitt Romney prend ses distances avec Donald Trump, mais est-ce qu'il pourrait être lâché par les républicains sur cette affaire-là, à votre avis, Laurent Vigier?
J'en doute beaucoup. Je pense que ce serait un véritable suicide pour les Républicains de lâcher Trump en pleine élection, en pleine campagne pour la présidentielle. J'y crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, ils vont jouer l'idée que, regardez ces démocrates qui... Depuis le premier jour où j'ai mis le pied à la Maison-Blanche, ont rêvé de me destituer. Ils sont revenus là-dessus pendant 3 ans. Et voilà qu'au moment où on allait enfin se battre à armes égales, entre guillemets, dans l'arène politique, donc sur les sujets de fond, sur mon bilan, etc., voilà qu'ils veulent maintenant à nouveau me destituer. Regardez-les, ce sont des mauvais joueurs, ce sont des mauvais perdants, ce sont des gens qui ne veulent pas se battre sur le plan politique. Et ça peut être extrêmement puissant comme argument auprès des électeurs. Et les Républicains, évidemment, vont le soutenir à fond là-dedans.
Vous êtes en train de nous expliquer que ça peut même se retourner contre les Républicains, que c'est un jeu politique dangereux contre les démocrates, pardon.
Exactement. Je pense que c'est un gros risque pour les démocrates. Pourquoi ? Parce que ils avaient commencé, notamment pendant les midterms, à mener une bataille sur un certain nombre de sujets, sur des sujets de fond. Et sur le healthcare, donc la santé, sur le social, sur l'écologie, etc. S'ils remettent Trump et la question de Trump au centre du jeu, et on ne va parler que de destitution pendant cette campagne, c'est le grand risque. Et du coup, vous savez bien, c'est ce à quoi faisait allusion Nicole, et je suis d'accord avec elle, c'est qu'il y a chez Trump de remarquables capacités de contre-attaquant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il est saisi à la gorge, et il est aujourd'hui saisi à la gorge sur le plan intérieur et extérieur, on va en parler avec l'Iran, c'est là qu'il est le meilleur, et il peut essayer de tirer dans la boue l'adversaire face auquel il sera. Si c'est Biden, ce sera plus simple, parce qu'il y a toute cette histoire de soupçons sur ce propre cas ukrainien, ou le fait qu'il avait obtenu la démission de ce procureur qui enquêtait sur l'entreprise où était son fils. Et avec Warren, ça sera différent, mais il a cette capacité. Souvenez-vous de 3 semaines avant la présidentielle avec Clinton, où il y avait eu cette horrible cassette sexuelle où tout le monde a cru qu'il était fichu, et il l'a entraîné dans la boue lors du 3e débat en convoquant toutes les femmes qui accusaient Bill Clinton de les avoir violées ou harcelées. Et ça a été un coup de théâtre incroyable qui a entraîné dans la boue Hillary, à travers son mari.
Alors on voit que c'est plutôt une bonne opération pour le coup pour Elizabeth Warren, qu'on a vu dans le reportage. Absolument. Avec des sondages. C'est le premier sondage qui, on le voit à l'instant, qui la met en tête, alors que jusqu'à présent elle était sur le podium, mais en 3e position derrière Joe Biden et Bernie Sanders. Pourtant, dans les sondages, Donald Trump baisse, puisqu'on parle des enquêtes d'opinion. C'est pas lié aux affaires, Mais c'est plutôt lié à la crainte sur les affaires économiques, de la santé économique du pays,
oui,
Nicole Bacharach.
C'est d'ailleurs assez étrange, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça tient. Je veux dire, les chiffres de l'économie sont absolument flamboyants, que ce soit le chômage ou la croissance ou les cours de la bourse. De temps en temps, à la suite la d'une bourse, de ces déclarations, il y a une
la bourse, c'est un peu erratique. Hein.
Voilà. Mais bon, grosso modo, ouais. Il peut quand même se vanter de présider une économie qui est en très bonne forme. Or, ces guerres commerciales, notamment avec la Chine, les Américains commencent à les ressentir et à s'en inquiéter. Parce que d'abord, ce qu'ils achètent aux Chinois, ils le payent plus cher. Dans les fameux droits de douane, Donald Trump, on parle toujours comme de droits qui seraient payés par les Chinois. Non, ce sont les Américains qui payent les droits de douane quand ils importent. Il y a un certain nombre de produits qui augmentent, des produits à la fois de consommation courante, mais dans les usines, les agriculteurs aussi en subissent les conséquences.
C'est ça qui pourrait le pénaliser dans la campagne.
Et ce qui est étrange, c'est que sur l'économie, qui est le point fort de Donald Trump, les sondages sont mauvais. Les gens ne lui font pas confiance. Toutes tendances confondues, c'est à peu près 59-60% qui disent on n'a pas confiance dans sa manière de diriger l'économie.
Et il y a une inquiétude sur cette récession annoncée d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe. Très vite, Thomas Legarde.
Et c'est précisément sur les questions économiques qu'Elizabeth Warren fait une percée en proposant un impôt sur les très très grandes fortunes. Ce n'est pas la française, c'est sur les très très grandes fortunes, en augmentant l'impôt sur les entreprises et notamment sur leurs bénéfices. Voulant démanteler les grands trusts, les GAFA, on en parle beaucoup chez nous, elle veut le faire aux États-Unis, Google, Amazon, on casse tout ça.
Elle ne parle pas beaucoup des affaires, Elizabeth Warren.
Elle est très bonne là-dessus parce qu'elle a émergé politiquement en 2008, lors de la crise, et elle a été l'une des grandes voix qui a dénoncé la folie de la finance. D'accord. Donc pour les Américains, elle a cette image-là. Ils la connaissent depuis une dizaine d'années surtout, et sur ces questions-là. Donc les questions de probité.
D'accord,
et de questions économiques, c'est là où elle est plus forte et c'est les points faibles, apparemment, de Donald Trump à venir.
Alors, en tout cas, dans sa campagne, Donald Trump a toujours les mêmes ennemis, à commencer par l'Iran. Il sait bien que les Américains ne veulent pas d'un nouveau conflit, d'une nouvelle guerre. Alors, à la tribune des Nations Unies, il a promis de nouvelles sanctions économiques, commerciales, contre ceux qu'il qualifie toujours de parrains du terrorisme mondial, Julien Launay et Laszlo Gelabert.
C'est son troisième discours prononcé à la tribune des Nations Unies et cette intervention ressemble aux précédentes. Encore une fois hier, devant toutes les délégations présentes au siège de l'ONU, Donald Trump s'en est pris au régime iranien.
Toutes les nations ont le devoir d'agir. Aucun gouvernement responsable ne devrait subventionner la soif de sang de l'Iran. Tant que son comportement menaçant persistera, les sanctions ne seront pas levées. Elles seront plus contraignantes.
Donald Trump maintient la pression. Pourtant, dans les coulisses, on s'agite pour faire en sorte de renouer le dialogue entre Washington et Téhéran. Emmanuel Macron, dans le rôle du médiateur, estime que c'est le moment ou jamais de se parler et le fait savoir.
Meeting with President Trump.
اگر کشور رو تنگ کنید بدون دیدنتون.
This is a lost opportunity.
Il, c'est Hassan Rouhani, le président iranien, lui aussi à New York, mais peu ouvert à la discussion avec son homologue américain.
Nous devons recréer de la confiance et Donald Trump a rompu cette confiance. Nous avions un accord et M. Trump en est sorti illégalement et sans justification valide.
L'épineuse question du nucléaire qui n'en finit plus de faire monter la tension entre les deux pays. Récemment, elle est encore montée d'un cran après les attaques de sites pétroliers en Arabie Saoudite. Ces offensives ont été revendiquées par les rebelles houthistes du Yémen, soutenus par l'Iran.
L'Iran déstabilise toute cette région. Elle soutient les milices et les groupes terroristes. Elle vend des armes aux rebelles houthistes au Yémen. L'Iran mène des cyberattaques et soutient le régime meurtrier de Bachar al-Assad.
It supports the murderous Assad regime as well.
L'occasion à ce moment-là pour les États-Unis de renforcer à nouveau les sanctions à l'égard du régime. Donald Trump continue à hausser le ton, mais quelles sont réellement ses intentions? Est-il capable d'aller jusqu'au déclenchement d'une guerre? Pas certain, surtout qu'il a annoncé ce mois-ci le limogeage de son conseiller belliqueux John Bolton.
J'ai informé la nuit dernière John Bolton que nous n'avions plus besoin de ses services à la Maison-Blanche. J'avais un profond désaccord avec la plupart de ses recommandations, comme beaucoup d'autres au sein de mon administration. Et donc ?
Exit. Ce néoconservateur, connu pour ses positions très dures sur l'Iran, comme au mois de février, à l'occasion des 40 ans de la révolution islamique.
Ayatollah Khamenei, malgré toutes vos provocations, toutes vos menaces sur la vie du président américain, vous êtes responsable de cette terreur infligée à votre propre peuple et au monde entier. Je ne pense pas que vous aurez de nombreux autres anniversaires à célébrer dans le futur.
Une désescalade serait-elle alors désormais possible ? Difficile à dire, car Donald Trump se montre toujours aussi intraitable sur le sujet devant ses partisans.
Pour garantir notre sécurité nationale, j'ai retiré les États-Unis de cet horrible accord unilatéral sur le nucléaire iranien qui n'était pas bon.
Donald Trump est un président en campagne, un président qui mesure ses mots parce qu'il parle à son électorat. Le discours de fermeté devant l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas tant pour les leaders du monde que pour les Américains qui regardent la télévision et qui se disent « America great again », voilà un cas concret, notre président est ferme, nos ennemis sont les Iraniens.
L'Iran, un calcul électoral pour Donald Trump, alors que les enquêtes d'opinion ne lui sont pas favorables ces derniers temps. Il y a 15 jours, sa cote de popularité était en baisse, sous les 40%.
Non, on peut dire qu'on commentait la robe de... Ça se fait aussi alors qu'il y a un sujet très grave qui vient, qui est celui de l'Iran et de la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran, qui n'est pas toujours simple à suivre, parce qu'on se souvient d'avoir fait des essais dans l'air où on était à 10 minutes d'une guerre et puis finalement il avait renoncé. Cette question, jusqu'où peut aller l'escalade entre les États-Unis et l'Iran à un an des élections américaines, une guerre, s'interroge Denise dans le Rhône.
Oui, en fait, je pense que Trump est traversé par des buts contradictoires. Le premier but, c'est qu'il veut que les États-Unis se retirent partiellement du Moyen-Orient, en tout cas que leur empreinte y soit moins grande. Il a cette idée qu'il faut arrêter de s'impliquer dans tous les conflits. Ça, c'est son instinct, je dirais, réaliste général, depuis le début. Après,
Par Obama.
Voilà, qui était partagé par Obama. Et l'autre instinct, c'est d'être ferme vis-à-vis de l'Iran, parce qu'il estime que Obama a tout lâché ou a trop lâché quand il a signé cet accord sur le nucléaire. Il veut forcer les Iraniens à un deal beaucoup plus ambitieux, notamment sur le rôle de l'Iran en tant que puissance régionale déstabilisatrice. Donc il y a une vraie volonté de changer complètement la donne. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Trump, depuis le début de sa campagne pendant les primaires républicaines, je m'en souviens très bien parce que j'y étais, a toujours dit qu'il n'excluait pas de négocier avec les Iraniens. Et donc en fait, c'est intéressant parce que chez lui, il y a vraiment cette idée, comme avec la Corée du Nord, qu'il pourrait, lui, faire un deal qu'il pourrait faire différemment.
Le problème, c'est qu'on passe du deal à la guerre.
Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, le moment dans lequel on est, c'est un moment où tout d'un coup, sur pas mal de sujets, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, Donald Trump est convoqué, je dirais, sur le tapis. Jusqu'à présent, il a mené une sorte de marchandage, une espèce de poker menteur. Et aujourd'hui, on lui demande, les Iraniens en particulier, lui demandent de montrer sa mise. Et donc, il est dans un moment extrêmement complexe parce que soit il frappe, il répond. Et donc, ils font monter les enchères en disant « Alors, monsieur Trump, vous êtes vraiment un dur, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» On vient de frapper. Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils avaient frappé l'Arabie saoudite, mais tout le monde le sait. Et donc, la question de Trump, c'est est-ce qu'il frappe militairement ? Comment ? Et risque une escalade, puisque les Iraniens font monter les enchères en disant « Attention, si jamais vous frappez, ça va dégénérer, il y aura la guerre. » Ou est-ce qu'il ne fait rien ? Mais donc, il fait un aveu de faiblesse terrible. Donc, je pense qu'il est dans une situation très, très difficile, d'autant plus qu'il se retrouve maintenant fragilisé à l'intérieur avec cette procédure d'impeachment.
Que veulent les Américains, sur le dossier iranien ?
En fait, Trump, il ne sait pas trop. En fait, il saute du coq à l'âne. Je pense que son avis, ça change d'un jour au lendemain. C'est très souvent en fonction de qui chuchote dans son oreille.
Mais les Américains eux-mêmes, ils attendent.
Ce qui est très intéressant, c'est que les Américains, au moins ceux qui soutiennent Trump, ouais, ils sont vraiment vent debout derrière leur champion. J'étais la semaine dernière dans l'État de Tennessee, dans le sud des États-Unis. Et là, bon, on est un peu dans dans un univers parallèle où on est là ergoté sur les nuances de la politique américano-iranienne et les négociations, est-ce que ça avait échoué ou non, la guerre ou non. Les gens ne se préoccupent pas trop de ça, mais ils écoutent uniquement ce que dit Trump. Et pour eux, tout ce qu'il ne dit pas, c'est du fake news. C'est-à-dire, si ça vient des journaux... J'ai vu des T-shirts là-bas où on dit que, bon sang, j'ai voté pour Trump en 2016 et je vais refaire la même chose en 2020. Ça, c'est un T-shirt très populaire. Et sur l'Iran, quand Trump dit qu'il veut négocier avec Rouhani, voilà, ceux qui le soutiennent, ils croient que oui, les autres veulent la guerre. Trump, il est toujours ouvert, c'est les autres qui le rejettent, c'est les autres qui refusent. Mais Trump est toujours prêt à être l'homme généreux, chaleureux, et toujours l'homme qui est prêt à faire le deal, l'art de la deal. Ouais. Et en fait, ils sont vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant ce qu'on dit sur la politique, la géostratégie, la géopolitique avec l'Iran, mais au fond, quoi, ça, c'est un peu déconnecté de la réalité de ce que savent la plupart des Américains et surtout ce que soutient Trump dans les États clés où il a sa base politique.
Et ceux qui soutiennent Trump, que vous avez rencontrés sur la question des affaires, ils sont aussi manichéens, ils sont aussi vous l'expliquez.
J'ai dit qu'en fait, ils sont déconnectés. Ils veulent... Le factuel, très souvent, c'est quelque chose qui s'est en fait manigancé, c'est les démocrates, c'est les progressistes, c'est quelque chose, c'est le fake news, le factuel. Et en fait, ce que disent les médias américains, ça devient quelque chose à côté de la plaque pour eux. Ce qui est la vérité, c'est ce que dit Trump, en fait. Bien sûr, on ne peut pas dire pour tout le monde, il y a bien sûr beaucoup d'exceptions.
Mais c'est intéressant.
Au Tennessee, c'était 6 sur 10 qui ont voté Trump. Mais ça n'a pas vraiment bougé, malgré toutes ces affaires, malgré toute la salade dont on parle, voilà l'Iran, la guerre, l'escalade. Ça n'a pas, mais ça n'a pas vraiment bougé dans l'opinion publique. Trump, il jouit toujours d'un côté de popularité de 43%. Et depuis, il n'a jamais joué d'un côté de popularité majorité au-dessus de 50%, mais toujours 43%, ça n'a pas vraiment bougé. Et ça, c'est très important.
Nicole Bachand ?
Oui, vous disiez d'ailleurs que Trump baissait dans les sondages. 43% en France, on se dit quand même 43%.
Ça fait rêver,
c'est pas si mal.
Oui,
mais c'est vrai que c'est sa base solide. Et quand on les écoute, je suis d'accord avec Douglas, c'est pas du rationnel, c'est une passion pour Donald Trump. Il incarne quelque chose qui vient d'eux-mêmes, qui les prend aux tripes. On n'est pas dans l'analyse politique. Mais l'histoire américaine nous apprend que jusqu'à présent, en tout cas, 43%, c'est pas suffisant pour aller à l'élection. Qu'aucun président depuis la guerre, donc depuis 1945, n'a été élu en ayant une cote de popularité inférieure à 48%. D'où cette inquiétude dans son camp.
Juste sur l'Iran, un demi-mot sur l'Iran, parce que bien sûr, il souffle le chaud et le froid, mais je crois que c'est pas parce qu'il sait pas ce qu'il veut. Je crois qu'il veut maintenir un état de crise larvée qui lui permet effectivement d'apparaître comme celui qui... Et la crise larvée avec l'Iran, elle a plein de bénéfices. Ça permet de s'allier, de montrer l'alliance avec ses alliés de la région, parce qu'il y a l'Arabie Saoudite et Israël. C'est très important de s'aliéner l'Iran. Et puis, il y a un autre enjeu quand même, c'est de maintenir des sanctions envers l'Iran pour que le pétrole iranien n'inonde pas le monde et que le prix du baril reste à un niveau élevé, ce qui rend le pétrole américain rentable. Et ça, c'est une dimension majeure pour les fameux États qui sont nécessaires pour sa réélection.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Si la faute de Trump est avérée, les sénateurs républicains le soutiendront-ils malgré tout ?
C'est une vraie question parce que...
Ça devient très important sur la procédure de destitution.
Il faut expliquer une chose aux téléspectateurs. Il y a 100 sénateurs qui sont élus par tiers tous les deux ans. Donc ça fait c'est 6 ans de mandat et puis tous les deux ans, il y a un tiers des sénateurs. Les sénateurs qui mettront leur siège au vote le jour même de la présidentielle 2020 ont été élus en 2014. Dans une grande vague républicaine. Et notamment, c'était le Tea Party, c'était plutôt des gens bien à droite du parti. Et donc, c'est ces gens-là qui ont le plus à craindre d'une réélection, enfin pour eux, pour leur propre siège. Et ces gens-là sont les plus favorables à Donald Trump.
D'accord.
Donc, il n'y a pas beaucoup de chances que ces gens-là se retournent contre celui qui est leur héros, qui les a pas amenés au pouvoir, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir avant lui, mais ils lui ont quasiment tracé un sillon qui les a amenés au pouvoir. Donc, il y a assez peu de chances. On n'imagine pas, effectivement, comme Douglas peut le rappeler, ça fait des années qu'on voit les républicains voter tous, et Donald Trump, il le dit souvent, est un président qui est hyper populaire chez les Républicains. Il a plus de 90% d'opinion favorable chez les Républicains.
Ce qui ne vont pas se faire harakiri, quoi.
C'est plus que Reagan, c'est plus que Bush. Hein.
Nicole Bachand.
Et je dirais juste pour l'histoire que Richard Nixon a démissionné avant d'être destitué parce qu'un certain nombre de républicains, de sénateurs républicains allaient le lâcher. Donc en fait, le sort de Donald Trump, il dépend d'une vingtaine de sénateurs républicains qui, a priori, le soutiennent. Mais si l'affaire révélait des choses extrêmement compromettantes, peut-être qu'à un moment, il ferait le calcul de se dire ben, c'est plus dans notre intérêt.
Donald Trump a-t-il promis une aide militaire à l'Ukraine en échange d'informations sur le clan Biden? C'est bien la vraie question. Oui. C'est la question.
Il y a une aide militaire depuis 2014. Hein. Il y avait une aide militaire. La question, c'est est-ce qu'il a gelé l'aide militaire dans le but de faire pression sur le président ukrainien juste avant le coup de fil? C'est ça l'histoire,
mais
en fait.
Et lui, dit que non.
Et lui dit que non.
Il dit que c'était pour que les... Lui, il voulait surtout que les Français, il voulait pousser les Français et les Allemands à payer plus. Et donc, les Européens, j'ai vu qu'il y avait eu un communiqué de l'Union européenne qui s'empressait de dire qu'il y avait eu 15 milliards de dollars qui avaient été débloqués par l'Union européenne pour l'Ukraine depuis 2014.
Quand aurons-nous le résultat de cette procédure?
On n'a pas 50 000 exemples historiques, hein. Il y en a deux mises en accusation. Ça, impeachment, le mot est un peu troublant pour les Français qui pensent destitution et donc sortir de la Maison-Blanche. C'est la mise en accusation. C'est ce qui est en train de se passer à la Chambre des représentants. D'accord. Cette mise en accusation, elle a eu lieu deux fois, jusqu'au bout, donc arrivée jusqu'au Sénat. C'est pour Andrew Johnson en 1868 et pour Clinton en 1998. Alors, le calendrier, octobre 1998, la Chambre dit on lance, comme aujourd'hui, la procédure.
Ouais.
En décembre, ils disent OK, on la vote. Et en février suivant, le Sénat dit « on blanchit le président des États-Unis, on ne le limoge pas ». Donc c'est 4 mois.
D'accord.
C'est pour ça que quand on dit « oui, ça va empoisonner toute la campagne », non, ça va empoisonner le début de la campagne, à moins que ça dure bien plus longtemps. Mais en février, la campagne commence. Hein.
Et en 98, il faut rappeler que Newt Gingrich le rappelait lui-même, les Républicains qui avaient lancé cette procédure de destitution ont perdu. Et lui a perdu son poste de speaker.
Ça peut se retourner effectivement contre ceux qui l'ont initié. Les manœuvres des démocrates contre Trump depuis 2017 ne sont-elles pas ridicules et sans effet?
Sans effet, essentiellement, oui, hein, jusqu'à présent.
Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été inculpés. Hein.
Et c'est vrai, oui, tu as raison.
On va laisser répondre Nicole Bachand.
Ce que Thomas rappelait, à savoir que Nancy Pelosi, donc la présidente de la Chambre des représentants, ne voulait absolument pas y aller pour tous ces risques politiques dont on parle, et que là, en fait, elle n'a pas le choix. Parce qu'il y a cette question constitutionnelle, il y a la question de l'équilibre du pouvoir. La vraie question qui est posée, c'est abus de pouvoir et corruption par le président des États-Unis. Si elle n'y va pas, alors il n'y a plus de Congrès, il n'y a plus de Constitution, il n'y a plus de loi. Donc les démocrates n'existent plus. Ils prennent un gros risque en entamant cette procédure. Ils en prendraient un très gros en ne le faisant pas.
Qui est ce mystérieux lanceur d'alerte? On ne connaît pas son identité.
Peut-être
vu.
on va le savoir, parce que il a été appelé pour témoigner devant la Chambre des représentants, devant le comité, la commission qui enquête sur ces affaires-là. Et ça pourrait arriver dès cette semaine. Vendredi. En fait, on parle de soit jeudi, vendredi, on est aujourd'hui mercredi. Mais bon. On va le savoir, mais oui, j'imagine.
Il pourrait être convoqué pour témoigner.
Il peut être convoqué, mais en fait, il s'est déjà porté volontaire, selon les médias américains. C'est pas quelque chose, un cas où on doit le forcer, l'obliger à venir contre son gré, sa volonté. Il veut venir, apparemment, il veut témoigner. Et maintenant, selon les reportages des médias américains, ils sont maintenant dans un processus de négociation entre la Maison-Blanche, le département de la justice. Et voilà les avocats de ce lanceur d'alerte pour fixer les conditions de ce témoignage. Et on imagine, s'il vient effectivement, c'est cela vraiment qui va peut-être exploser l'affaire. Parce qu'en fait, les démocrates ont dit depuis le début, c'est pas la conversation téléphonique qui va être l'affaire. Ce qu'ils veulent vraiment, ils veulent avoir ce lanceur d'alerte parce que la conversation téléphonique dont on a parlé depuis le début de cette émission, ça ne fait qu'une petite partie, une infime partie peut-être de toute cette affaire.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre?
On ne sait pas. C'est justement ça.
Oui, c'est vrai.
Tout ce qu'on sait. Par définition, on ne sait pas. Il peut y avoir d'autres volets, d'autres aspects dont on ne soupçonne pas encore.
Et peut-être les preuves et des éléments sur cette affaire d'aide militaire qui, vous nous l'avez expliqué depuis le début de l'émission, est vraiment le cœur légal de ce qui pourrait être gênant pour Donald Trump. Pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas plutôt demandé aux services de renseignement américains donc été sur le fils de Joe Biden. Merci pour cette question.
Merci pour cette question. C'était exactement ce que le président des États-Unis aurait dû faire. Il n'a pas confiance dans ses propres services. Il pense qu'ils ne vont pas lui donner assez de matière pour démolir le type qu'il veut démolir. Tout simplement. La Maison Blanche, elle existe depuis 1800. Donc c'est le deuxième président, John Adams, qui s'est installé. Il avait fait graver au-dessus de la cheminée « Puisse dans cette maison n'habiter que des hommes honnêtes et sages ». Et on s'aperçoit que les institutions américaines, qui sont quand même bien rodées, très légalistes, procédurières, eh bien elles ont quand même aussi besoin, elles comptent aussi sur le fait que le président soit à peu près honnête, à peu près décent, et quand même le sens des institutions, de la loi et des intérêts du pays.
Une dernière question, quelles sont les réactions du président ukrainien, du gouvernement et de son opinion publique? Alors le président ukrainien, on l'a entendu tout à l'heure, il a dit je ne suis pas sous influence,
voilà,
il
est très embarrassé. Et puis c'est un peu quelqu'un qui fanfaronne un peu, quoi. Il n'aime pas trop cette histoire.
Dernière question, mais qui donc écoute les conversations téléphoniques du président des États-Unis?
Les services de renseignement.
Ukrainiens, américains.
Oui, parce que les gens disent, c'est pas Trump. Et qui téléphone un autre homme, c'est des pays qui s'appellent. Bon. Il est l'incarnation d'un pays, c'est pas uniquement un individu.
Eh ben, merci à vous tous. En tout cas, nous, on l'a eu in extenso, cette conversation entre ces deux présidents. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. On se retrouve demain à 17h50.